Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le quatrième dimanche de Carême est le dimanche de l'Étharé, comme l'était le dimanche de Gaudete, le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de la joie, le dimanche où on commence à compter les jours avant Pâques, et pourquoi, ce pourquoi nous voulons croire en la résurrection, en la lumière. Alors cette lumière habille un peu nos habits, et la lumière venue dans le violet habituel de ce temps donne un peu de blanc dans ce violet. Voilà pourquoi les ornements sont roses. Nous réjouir, il nous faut trouver une raison très intérieure de voir la lumière, car voir est le sujet essentiel de cet évangile, de ce passage, de cette scène qui arrive au Seigneur. C'est mon plan, d'abord voir clair, des ténèbres à la lumière, et puis ensuite voir ce que fait le Christ lui-même. D'abord voir clair, passer des ténèbres à la lumière. Il y a évidemment un jeu très subtil, celui qui voit vraiment, celui qui voit tout, y compris le péché, c'est le Christ, et c'est celui qui a un regard pur. Le Seigneur, en sortant de la ville, immédiatement, nous dit l'évangéliste, voit un aveugle qui est sur son passage. C'est un aveugle qui ne lui a rien demandé. Ce n'est pas comme dans les miracles où on interpelle le Christ, où on l'appelle, où on lui demande quelque chose. Cet aveugle n'a rien demandé, c'est le Christ qui le voit. Le Christ voit ma misère, il me regarde et il m'aime. Alors, la question immédiate qui surgit de la bouche des apôtres du Seigneur qui le suivent, c'est de se demander si cet homme est aveugle comme il l'est de naissance. Ce n'est pas un accident facile à expliquer, ce n'est pas une maladie survenue. Comme il est aveugle de naissance, eh bien, l'explication la plus obvie qui leur vienne, eh bien, c'est que cet homme a péché, peut-être lui ou ses parents. Et immédiatement, le Seigneur rejette clairement, non, ni lui ni ses parents n'ont péché. Il n'y a pas de lien de causalité directe entre le péché et le mal subi dans le monde. Toutefois, il y en a un quand même. Il y a ici, selon le Christ, un lien de, non pas de causalité immédiate, mais de finalité. C'est-à-dire que le mal, dans son ensemble, l'introduction du péché a comme fruit le mal, mais ce n'est pas tout, il a comme but le bien. Rien de ce qui est une destruction du bien, rien de ce qui est le péché, n'est permis pour nous faire obstacle à la survenue du bien final qui est Dieu. C'est pour que soit manifestée l'œuvre de Dieu, répond le Seigneur. Un lien bien ténu pour nous, un lien bien obscur lorsque l'on vit le mal, un lien qu'il nous faut observer les yeux sciés pour voir, entrevoir la lumière passer à travers ce mal, voir encore le bien qui va venir, garder l'espérance du bien qui vient. Il va y avoir dans tout cet évangile de nombreuses personnes qui vont intervenir et constater ce miracle. Chacun va y répondre selon la clarté de sa vue et de son cœur. Il y a d'abord les voisins, ceux qui viennent habituellement au temple. Il y a trois catégories de gens qui vont ne pas voir la lumière. Les voisins, les parents et les pharisiens. Les voisins, eux, c'est par incrédulité. Ils s'intéressent pourtant. Est-ce que c'est bien l'aveugle qu'on connaît ? Oui, non, peut-être, et puis de toute façon, on s'en fout. C'est le dédain de ce monde pour la question de Dieu. C'est le dédain de ce monde pour la destinée du monde. C'est « on verra bien, laissons couler, ne nous interrogeons pas, de peur que nous trouvions une réponse ». Peut-être avez-vous tenté souvent de parler de Dieu à vos amis et souvent, nous entendons la réponse qui est faite à saint Paul lui-même, « Ohé, sur ça nous t'entendrons un autre jour. Mangeons et buvons, car nous ne voulons pas savoir. » C'est un obstacle de la foi, c'est l'obstacle de ma volonté, mon incrédulité ou ma paresse qui m'empêche de voir Dieu. Il y a les parents de cet homme. Clairement, l'évangéliste nous dit qu'ils ont peur. Ils ont peur de la répression qui pourrait suivre. Alors, ils renvoient prudemment à leur fils. ils ne veulent pas répondre pour lui. La peur est souvent aussi un obstacle de la foi. La peur de Dieu, la peur de l'avenir, la peur que le bien ne survienne pas, la peur qu'on apprenne un avenir horrible, la peur que je ne sois pas sauvé. La peur est un obstacle bien naturel à la foi. Et puis il y a le pire des obstacles, évidemment, c'est les pharisiens qui vont l'illustrer ici. C'est eux-mêmes, c'est leur orgueil. Et pourtant ils sont acharnés, eux ils ne sont pas incrédules, ils croient en Dieu. Eux, ils n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout. Ils veulent savoir comment cela va se passer, d'où cela vient-il, pourquoi était-il bien aveugle, ne l'est-il plus, comment ça s'est passé. Ils l'interrogent deux fois. Mais voilà, ils ont dans les yeux un orgueil tel que cela voile leur intelligence. Ils ne parviendront pas à voir Dieu. Il y a enfin cet aveugle. Il y a enfin cet aveugle qui va voir, et c'est très progressif. Il va voir parce qu'il va obéir au commandement de Dieu. Le premier, c'est « va te laver » à la piscine de Siloé. Il l'envoie là, c'est le nom de la piscine. Envoyé, ou plutôt envoyeur, c'est la piscine qui envoyait l'eau à Jérusalem. Et puis, ensuite, il va témoigner. Oui, les faits, rien que les faits, pas d'invention. C'est un homme, il m'a dit ça, je l'ai fait, je vois. Il le dit et le répète aux voisins, aux parents, aux pharisiens. Il ne manque pas d'humour, évidemment, pour voir que certains ne sont pas intéressés, que d'autres ont peur et que les pharisiens ne veulent pas entendre la réponse qu'il leur dit. Et non sans humour, il leur demande si ils voudraient devenir aussi disciples. C'est-à-dire qu'il les renvoie, au-delà du fait indiscutable, à la décision intérieure, à leur détermination, celle de la foi. Et puis ce n'est pas tout, le Christ va lui demander s'il croit au Fils de l'homme, et comme il ne voyait pas au début, et comme le Christ l'avait vu, eh bien le Christ lui dit « Voilà maintenant ce Fils de l'homme, tu le vois, c'est moi ». Alors il le témoigne, il l'adore, il se prosterne, signe qu'on ne fait qu'à Dieu. Aucun juif, pas plus qu'un chrétien, ne s'est jamais agenouillé devant personne, sinon Dieu lui-même. Voilà comment nous passons des ténèbres à la lumière. Il nous faut voir notre péché, il nous faut nous intéresser à notre âme, il ne faut pas avoir peur ni de Dieu ni de l'avenir, il ne faut pas laisser notre orgueil, et c'est le plus difficile évidemment, biaiser notre vue de la lumière, l'obscurcir. Alors que fait le Christ ? Le Christ, c'est très simple, il opère un miracle, il y en a beaucoup dans l'Évangile, mais celui-ci est étonnant. Souvent, le Christ opère des miracles par un simple geste, par une parole, par tout simplement sa volonté. Et ici, tout est mêlé. Il fait de la boue avec sa salive, il en fait un onguent, il le met sur les yeux, il lui demande d'aller se laver. Et c'est seulement en revenant qu'alors il commence à voir. Il y a quelque chose ici du sacrement qui nous est laissé. Dans chaque sacrement que fait l'Église, qui est le corps continué du Christ, nous refaisons la même chose. De la matière, une forme, une action, voilà le sacrement. La matière, le pain et le vin. La matière de l'Eucharistie. La matière du baptême, de l'eau. La matière de la confirmation, de l'huile. La matière de chaque sacrement nous est comme médiatisée. Car le Christ, le Verbe fait chair, a ennobli la matière et lui a rendu le pouvoir de sauver. Le Christ, en venant dans la matière, en venant dans cette chair, nous a rendu possible la médiation de notre humanité avec le salut. Oui, c'est à partir de la matière, c'est à partir de ce que je fais matériellement aussi que le salut va advenir. Et bien sûr, une forme à cette matière, sinon elle est informe et ne sert à rien. Comme tout sacrement, il y a une forme, c'est-à-dire une parole qui la met en forme, qui l'organise, et une intention qui la porte. Il faut les deux, bien entendu, ce n'est pas magique. Il faut se coller dans la parole du Christ donnée il y a 2000 ans. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà ce que font les prêtres et les diacres lorsqu'ils baptisent. Ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y alliant la matière que le Christ a lui-même connue de l'eau du Jean le Baptiste avec la volonté de faire ce que veut faire l'Église. Et voilà alors que cette parole vivante devient agissante. Chaque sacrement opère quelque chose. Alors c'est de ça dont il faut nous réjouir, que nous puissions recevoir les sacrements. Et ce n'est pas une provocation que je fais aujourd'hui, sachant que nous ne pouvons pas nous approcher des sacrements matériellement. Mais pensez que c'est bien la forme de ces sacrements qui les soutient. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'origine de toute matière, c'est l'Esprit de Dieu, c'est sa volonté et la forme de toute chose qui nous sauvera. Oui, l'introïte de la messe dit « Réjouissez-vous, réjouis-toi Jérusalem, et vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous ». Quelle provocation pour notre joie aujourd'hui alors que nous ne pouvons pas nous rassembler. Mais pensez-y bien, mes bien chers frères, se rassembler à l'Église, ce que nous espérons faire le plus tôt possible, ce que nous espérons pouvoir enfin réaliser, réunir nos familles, réunir nos amis, nous réunir autour de Dieu qui vient ici dans l'Eucharistie pour se réjouir vraiment profondément, jusque dans notre chair, pouvoir chanter de notre voix, voir de nos yeux, toucher de notre corps le Christ. Nous le faisons seulement parce que c'est dans l'Esprit de Dieu que c'est possible. Toute cette belle, ce beau rassemblement ne serait rien si la volonté, notre cœur, notre amour de Dieu, notre désir de le voir n'était pas là. Alors voilà, nous allons suspendre un instant, nous allons nous suspendre en Dieu, attendre que celui-ci nous permette de manifester sa gloire à travers le mal que nous vivons, à travers la séparation, la maladie, le danger, l'incertitude et la peur. Voilà que nous voulons tenir cette joie de savoir que nous pouvons nous assembler à Dieu, nous pouvons communier à lui dans un désir profond pour enfin le voir un jour quand la lourdeur du mal aura disparu de notre pays, de nos vies, de notre cœur. Oui, c'est spirituellement que je vous invite, mes bien chers frères, à vous unir au Christ qui vient. Désirez profondément le recevoir et le Seigneur comblera votre cœur d'une manière qu'il voudra pour réaliser l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est la liturgie que nous célébrons, le don que nous faisons de la charité qui se transmet dans les gestes que nous faisons. Voilà pourquoi l'Église a toujours uni la liturgie de l'Église avec la charité faite aux pauvres, car c'est une seule et même chose, ce sacramentum caritatis qui est l'Eucharistie où le Seigneur s'est donné une fois pour toutes, nous le recevons et le donnons nous aussi dans le bien que nous faisons. Réjouissons-nous que nous sachions la source de la lumière, la source de la joie. Ainsi soit-il.